On évoque les attentats du 13 novembre et plus spécifiquement le Bataclan. Bataclan au cœur d'une polémique, Bataclan également au cœur d'une mission avec cette soirée sanglante pour Paris et l'agglomération parisienne. Nous sommes en compagnie de Thibaut de Montbrial. Vous êtes président du CRSI, le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, avocat et membre du conseil scientifique de l'école de guerre. Et nous accueillons Denis Péchanski. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes affecté au Centre d'histoire sociale du XXe siècle et vous présidez une mission sur la mémoire de ces attentats. Expliquez-nous en quoi elle consiste, Denis Péchanski.
Eh bien, ce n'est pas du tout une mission sur la mémoire, c'est un programme de recherche scientifique. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec mon collègue et ami Francis Eustache, qui est un neuropsychologue, moi je suis historien, et après le 13 novembre, alors même qu'on travaillait ensemble depuis plusieurs années sur les questions de mémoire, on s'est dit, et ça rejoint évidemment votre interrogation, on s'est dit, là il faut qu'on intervienne et qu'on utilise nos outils à nous. Et l'idée, c'est de voir comment interagissent la mémoire individuelle et la mémoire collective d'un événement traumatique et de suivre les personnes dans la durée. Pour prendre un exemple, on a une partie du programme qui consiste à interviewer 1000 personnes, du plus près au plus loin de l'événement, en 2016, les mêmes en 2018, T+2, T+5 2021, T+10 en 2026, et de voir au fur et à mesure comment évolue, se construit la mémoire et comment l'individu s'imprègne aussi du discours collectif. Et par ailleurs, de travailler sur ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, donc là c'est la dimension strictement médicale et qui est très présent, ce PTSD comme on dit, le PTSD, chez les survivants de... soit du Bataclan, soit de la terrasse, soit du Stade de France.
Pourquoi avoir choisi cette soirée-là, Denis Péchanski ? Pourquoi cet attentat-là plutôt qu'un autre ?
Écoutez, c'est clairement un mélange entre d'exigences collectives. Je pense à l'appel du président du CNRS à ce moment-là, à la communauté scientifique. Et d'exigences individuelles, quelque chose du « on leur doit ça », du devoir social du chercheur, en quelque sorte. Et nous, on avait des outils, on avait commencé à travailler depuis des années sur ces questions-là, alors on avance. Voilà. C'est pas tellement sur l'événement lui-même, comme Thierry peut le faire, que Thibault, pardon, mais sur la mémoire de l'événement.
Des conclusions provisoires ou en tout cas des enseignements déjà à nous livrer, Denis Péchanski ?
Il y a déjà ce que vous venez de dire tout à l'heure en parlant strictement du Bataclan. Il y a ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle un entonnoir mémoriel, c'est-à-dire qu'on a une séquence de 2 ans, 3 ans et malheureusement sans doute un peu plus des attentats terroristes en France, que la mémoire de ces événements qui s'inscrit donc comme mémoire collective, se polarise de plus en plus sur le 13 novembre, et le 13 novembre de plus en plus sur le Bataclan. Et ça va avoir aussi des conséquences en exigence vis-à-vis de ceux qui participent à la construction de cette mémoire collective. Et puis des choses sur le trouble de stress post-traumatique, ça se voit très très bien dans les premiers résultats qu'on peut avoir, la différence entre des personnes qui étaient exposées et qui ont développé un trouble de stress post-traumatique, et des personnes qui étaient exposées, qui ne l'ont pas développé. Et on voit très bien que les zones dans le cerveau, qui sont les zones des émotions ou les hippocampes comme zone de la mémoire, c'est comme si elles n'étaient plus sous contrôle de ce qu'on peut appeler la tour de contrôle cognitive, la zone de la rationalité, de l'analyse, qui normalement est là pour verrouiller en quelque sorte ce réseau de fonctions cognitives.
Je vais vous poser une question naïve. Est-ce que vous comprenez, Denis Péchanski, pourquoi les uns développent des troubles de stress post-traumatique et pas les autres ?
Bien, c'est une question fondamentale que vous posez. Ça sera le point d'arrivée, en quelque sorte, ou le point intermédiaire de notre travail. Parce qu'une fois qu'on a diagnostiqué ça, parce que l'intérêt de notre travail, c'est qu'en travaillant sur suffisamment de personnes, puisqu'on a la confiance de tous ceux qui qui ont été victimes de cela ou qui sont intervenus sur ce moment-là, on a suffisamment de monde pour dire voilà, il y a deux personnes qui, par exemple, étaient au Bataclan, au milieu de la fosse, et qui sont restées 20 minutes, et il y en a un qui a développé un trouble de stress post-traumatique, l'autre pas. Alors il va falloir reboucler sur non plus simplement la médecine ou le médical, mais aussi la sociologie, la psychologie, et dire bon, je sais pas, présence de la mère, l'autorité du père, le parcours professionnel, l'environnement social, le passé individuel, le passé collectif, tout ça va participer de clés d'interprétation de ce phénomène.
Thibault de Montbrial.
Oui, sur ce point du syndrome de stress post-traumatique, c'est un point qui est passionnant, qui est essentiel. Les militaires français travaillent enfin beaucoup sur ce sujet depuis la guerre d'Afghanistan. Ce qu'on constate, c'est que vous pouvez avoir aujourd'hui personne n'a la réponse pourquoi certains développent, pourquoi d'autres ne développent pas, et c'est d'autant plus compliqué que sur des gens qui sont exposés dans la durée à des stress de mort imminente, hein, parce que c'est ça le déclencheur, comme les soldats professionnels. Vous en avez qui peuvent aller 10 fois au combat et en revenir sans aucun effet secondaire, et la 11e fois déclencher le stress. Vous en avez qui vont le déclencher le premier jour, donc c'est vraiment un sujet éminemment complexe, et c'est évidemment très important de travailler sur l'impact d'une scène de combat sur des civils, puisque ça, c'était encore une fois l'une des particularités du 13 novembre.
Denis Péchanski.
Ce qui est extraordinaire, c'est que ce phénomène qui aujourd'hui apparaît, tout le monde parle de PTSD. Tout le monde parle de troubles de stress post-traumatique. Sauf que vous prenez ce qui s'est passé à la fin des années 70, 79, 80, avec les premiers attentats terroristes. Vous avez le Premier ministre, Raymond Barre, qui intervient, ça a laissé quelques traces, je reviens pas dessus. Mais surtout, les victimes physiques sont prises en charge. Mais alors, la question des troubles psychiques, des conséquences, cet aspect-là est complètement oblitéré, c'est-à-dire qu'on n'a pas, en quelque sorte, inventé socialement le PTSD, c'est pas rentré dans les problématiques de soins, c'est pas rentré aussi dans la mémoire collective. Aujourd'hui, le moindre accident de la route, un peu important, vous avez une cellule d'urgence, une CUMP médico-psychologique.
La construction de la mémoire, elle s'opère également par des images et par des films. Et il y a justement eu un documentaire en trois parties qui a été diffusé par Netflix. Alors il faut être abonné à ce service. On en a beaucoup parlé. Je vais vous diffuser un extrait de ce film consacré donc au 13 novembre. Il a été réalisé par les frères Jules et Gédéon Naudet qui avaient déjà filmé l'attentat du 11 septembre à New York.
Édition spéciale.
Fusillade dans le centre de Paris.
Plusieurs explosions ont été entendues.
C'est ce que nous redoutions, c'est-à-dire un commando réparti en plusieurs équipes.
Et je vois un des assaillants avec son arme.
Enfin, c'est autre chose. Ils sont venus flinguer tout le monde. Point.
À la fin, c'est toujours l'amour qui gagne.
Vous l'avez vu tous les deux, ce documentaire, un documentaire donc qui est proposé par Netflix. Votre opinion à ce sujet ?
Documentaire exceptionnel. Exceptionnel. Parce qu'en plus, il reste dans le soft, il joue pas sur l'émotionnel, alors même qu'il y aurait de quoi, et que son objet, il est parfaitement délimité. Il donne pas des clés d'analyse du terrorisme. Il ne donne pas non plus des éléments qui permettent de comprendre le processus décisionnel. Il ne dit pas non plus ce qui se passe après. Ça s'arrête à la fin du Bataclan. Mais en revanche, on voit comment l'individu est confronté tout d'un coup, ayant une sorte de circuit de vie comme ça, ondulatoire très très normal, on va dire entre guillemets, et ah, là vous avez la rencontre entre le choc de l'événement qui dure entre 10 secondes et 3 heures, qui vient fracasser des vies. Et ça, on le voit à travers les paroles des témoins et les paroles des pompiers. Et en plus, avec des sources neuves, largement, plus un travail sur l'image, parce qu'on doit bien insister là-dessus, qui est tout à fait remarquable. Donc je suis un fan absolu.
Thibaut de Montbrial.
Fan absolu aussi, c'est remarquable, pareil, poignant. C'est un film qui est poignant. Je connais personnellement quasiment tous les acteurs institutionnels qui ont été interviewés, de politiques, policiers ou pompiers. Je trouve que leurs interviews dépassent les interviews qu'on voit d'habitude sur les professionnels, que l'impact de l'événement, parce que le documentaire est construit chronologiquement, l'impact de l'événement est sur ces professionnels est remarquablement restitué, que l'utilisation de l'image, c'est-à-dire qu'on voit les professionnels face caméra et on les voit dans des images d'archives du 13 novembre, l'utilisation des archives sonores donne une force, une profondeur extraordinaire, les messages radio notamment avec ce qu'on perçoit dans la voix des gens, ça c'est exceptionnel. Ensuite, sur les victimes, moi j'accompagne beaucoup de victimes de terrorisme à mon cabinet comme avocat.
Vous êtes avocat.
Et je trouve que ces interviews qui sont très difficiles à faire réussissent à éviter le slalom entre, c'est un slalom habile entre les lieux communs et le voyeurisme. Et on accompagne là encore ces gens dans ces heures d'enfer. Il y a un choix éditorial qui est fait, il y a toujours un choix dans un film, dans un documentaire, qui est de s'intéresser aux survivants, même si la mort et notamment la mort d'un proche est abordée d'une façon que j'ai moi perçue comme extrêmement violente. C'est un film qui fait réfléchir, qui ne prétend pas être un documentaire exhaustif qui nous raconterait le pourquoi du comment. On ne s'intéresse pas, ce qui est un choix, aux mobiles, aux islamistes, pourquoi ils ont fait ça, etc. C'est pas le sujet. C'est le sujet d'autres reportages, etc. Celui-là, il est, c'est un parti pris et compte tenu de ce parti pris, c'est un résultat que je trouve remarquable.
Avec un mode opératoire, effectivement, pour faire en sorte que les personnes interrogées accouchent d'une parole. Mais Denis Péchanski, vous êtes historien. Est-ce que le fait que ce documentaire ne vous permette pas, sauf si vous n'êtes pas d'accord, de comprendre l'événement, puisqu'il n'est pas là pour ça, il est là pour recueillir des propos de victimes. Est-ce que, du coup, il ne vous intéresse pas parce que vous vous intéressez à la mémoire, mais il ne donne pas véritablement une compréhension de cet événement? Il y a un certain nombre de choses, Thibaut de Montbrial vient de le dire, qui sont laissées de côté, telles que les islamistes qui ont perpétré cet attentat. Bref, à quoi sert-il pour l'historien que vous êtes?
Travailler sur la mémoire. Vous savez, moi, on interview chez nous 1000 personnes, dont 355, c'était dans la première phase, en 2016, qui sont directement exposées. Donc, ceux qui sont les héros, en quelque sorte, de ce documentaire, soit les victimes, soit les témoins, soit les intervenants extérieurs. Et je veux dire, c'est la charge émotionnelle dans nos témoignages enregistrés grâce à l'INA, grâce à le CPAD, dans la durée, avec des témoignages qui durent 2h30, 3h. Bon, j'ai rencontré Naudet, l'un des deux frères à l'origine de ce documentaire. Il a aussi utilisé la même démarche, c'est-à-dire de travailler dans la durée. C'est beaucoup plus long, les témoignages qu'il a. Or, oui, ça nous donne des clés. Sur quoi? Mais sur la façon dont fonctionne la mémoire individuelle et comment ça s'articule avec la mémoire collective. Donc, faut pas chercher d'autres clés. On pourra les avoir dans d'autres documentaires. Et c'est tout. Donc, oui, c'est très important. Mais j'aimerais bien avoir un documentaire des frères Naudet, comme ils l'ont fait d'ailleurs pour le 11 septembre avec la caserne qu'ils suivaient et qu'ils ont suivi après le 11 septembre, un deuxième documentaire qu'ils avaient fait après le 11 septembre. J'aimerais bien avoir, après, un documentaire des frères Naudet surtout la gestion juste après. Et ce qui va faire en particulier, mais c'est extrêmement dur parce que alors là, c'est alors déjà difficile les trois, mais alors si on doit écouter la façon dont ça a été géré, les réactions des familles endeuillées qui sont absentes là, parce que c'était pas l'objet, je peux vous dire que là c'est la partie la plus compliquée, l'arrivée à l'IML, l'Institut médico-légal, les obsèques, le rapport avec les médias, c'est autre chose. Un beau sujet aussi, un sujet fort, dramatique, qui donnera d'autres clés, mais là, on en a déjà.
Question à contre-courant, Thibaut de Montbrial. Justement, on a beaucoup dit que les médias avaient contribué, à leur corps défendant évidemment, à donner des portraits des terroristes, notamment, qui pouvaient les servir, ou en tout cas, les transformer en modèles, On s'est demandé si on devait prononcer leur nom. On s'est demandé si, d'une certaine manière, eh bien, on ne leur accordait pas une victoire posthume, alors que si on avait cherché à effacer leur nom, si on avait été beaucoup plus sobre dans le traitement de ces événements, eh bien, finalement, l'effet d'entraînement sur d'autres esprits aurait pu être plus faible. Qu'en pensez-vous ?
Je ne suis pas d'accord avec cette vision. Je pense que notre pays était, et dans une certaine mesure est encore, assez fragile face à ces événements, parce que nous sortons, et c'est toute la complexité du sujet, de quasiment 70 ans de paix, trois générations successives qui se sont épanouies en dehors de la violence sur notre territoire. Et il était absolument essentiel, il l'est toujours, mais avec une évolution, de parler de ces sujets, parce que il faut nommer l'ennemi, il faut comprendre ce qui arrive à notre pays. Et si l'on était dans une logique de minimiser, si on était dans une logique de ne pas parler de ceux qui ont fait ça, de dire que ce sont des déséquilibrés, etc., etc., ça changerait rien à leur objectif. Le terrorisme islamiste, c'est un moyen, le terrorisme au service d'une politique, l'islamisme. Donc de ne pas nommer, de ne pas en parler, ça aurait évacué le débat sur l'origine de ce qui nous arrive. Maintenant, maintenant qu'on est malheureusement inscrit dans la durée, c'est pas le sujet du jour, mais je suis moi persuadé qu'on n'est qu'au début de tout ça, il faut que notre pays continue une phase d'adaptation qui a été rendue possible par les hommages initiaux, etc., en adoptant un modèle qui est plus proche du modèle israélien, qui consiste à intégrer, ça ne veut pas dire se résigner, mais à intégrer dans l'ensemble de nos modes de vie, y compris en formant les jeunes depuis l'école, etc., à la conduite à tenir, enfin mettre en place une résilience collective, qui fasse que ensuite, quand il y a un attentat, il y ait d'abord le moins de dégâts possible, parce qu'un certain nombre de choses ont été prises en amont, mise en place en amont pour que les gens réagissent le moins mal possible, les forces de l'ordre le mieux possible, etc. Et qu'ensuite, ce qui est la définition même de la résilience, après l'événement, on se reconstruise très vite et donc on ne fasse pas trois semaines de fleurs et de bougies tout en rendant hommage, mais et qu'on puisse continuer à vivre. Et de ce point de vue-là, et alors qu'on a un retour en 2018, ce qui n'était pas le cas en 2017, des attaques contre les civils, la gestion médiatique de la phase Trèbes-Carcassonne du mois de mars et de la phase Paris-Opéra du 12 mai ont été beaucoup plus sobres que les années précédentes.
Denis Péchanski.
Alors, oui, on ne doit pas nier et oblitérer, occulter l'origine et la question de l'islam radical, bien entendu, là je vous suis totalement, et en même temps, l'historien de la mémoire vous dira, ce qui est passionnant, et je rebondis sur ce que vous venez de dire sur Trèbes-Carcassonne, regardez l'évolution. Mera, qu'est-ce qu'on retient ? Mera. Ouais, le nom du terroriste. On arrive à Trèbes-Carcassonne. Qu'est-ce qu'on retient ? Le héros, Beltrame. Si je vous demande quel est le nom de l'assassin, vous serez incapable de me le dire. Eh bien, je peux vous dire que moi non plus. En revanche, je saurais... Pourquoi ? Parce que, et ça a été totalement revendiqué par la parole publique, la parole au plus haut sommet de l'État dans le discours des Invalides, président de la République, c'est que dans ce régime mémoriel, comme je l'appelle, au régime de mémorialité, on veut mettre au cœur, certainement pas le terroriste, à la limite, on doit parler des victimes, mais elles sont pas centrales dans le discours qu'on veut mettre en avant, c'est la figure du héros qui doit être la figure structurante dans la reconstruction, dans la résilience que vous appelez de vos voeux. Et ça, pour celui qui regarde à distance, c'est absolument passionnant, parce qu'on a une sorte de concentré en deux, trois ans d'un phénomène qu'on a repéré aussi sur la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, mais regardez Mera, justement. Je me souviens très bien du nom de l'école juive aux Ozar HaTorah, Denis Péchanski. Et à l'époque, les réactions ont finalement été assez faibles, aussi incroyables et aussi tristes que cela puisse paraître aujourd'hui. C'était la première fois qu'on tuait des petits-enfants juifs après-guerre. Le fait qu'on ait insisté sur la mémoire de la Shoah, finalement, on a l'impression que ça n'a pas servi à grand-chose pour que ces enfants et cet assassinat aient été, je ne dirais pas si peu médiatisé, mais il y a eu finalement peu de réactions, une petite manifestation le soir à Paris, ça ne vous frappe pas ?
Si, bien sûr, mais le fait que la manifestation, c'était une manifestation pour l'essentiel de juifs. Bon, et là, ça renvoie à la question, évidemment, de du juif dans la société française et de l'antisémitisme. C'est problématique et symptomatique que la figure qui apparaît soit la figure du terroriste et qu'elle soit même héroïsée dans un certain nombre de segments de la société française. Et c'est là où on a à intervenir, et c'est pourquoi le travail sur la gestion de l'événement participe de façon absolument centrale de la construction de la mémoire collective.
Thibault de Montbrial.
Oui, c'est absolument essentiel. Ce qui est terrible à constater, c'est que si vous prenez la séquence Mera puis la séquence Charlie, ce sont deux attentats majeurs successifs en 2012 et en 2015 avec aussi l'hypercachère, où pour une partie de la population, d'abord, il y avait un soutien à ce qui s'était passé. Et pour le grand public, c'était encore des attentats ciblés, d'une part contre les juifs, d'autre part contre les militaires. Donc, il n'y avait pas cette émotion. Et c'est aussi une manière de répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure. Le 13 novembre, c'est la première fois qu'un attentat réussit, puisqu'il y a eu des échecs, on en a parlé, contre l'ensemble de la population. Mais Mera et Kouachi, c'est considéré par beaucoup de gens, comme des attentats ciblés. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont dit, moi, citoyen français, bon, c'est vrai, tant que je ne vais pas dans une école juive, dans une synagogue, ou tant que je ne porte pas l'uniforme, eh bien, je ne suis pas en risque. C'est absolument terrible. Ce travail de mémoire est essentiel. Je voudrais, pour compléter, dire que le président de la République l'a remarquablement compris, que la mise en scène de la cérémonie du 28 mars autour du cercueil d'Arnaud Beltrame est une remarquable réussite de propagande, mais au bon sens du terme. Nous avions besoin, depuis 3 ans que cette guerre nous est faite, de la figure du héros. J'ai une grande fierté à être l'avocat des frères et de la maman d'Arnaud Beltrame, et c'est absolument essentiel que les Français comprennent que nous sommes en guerre sur le temps long et il nous faut des héros. Et Arnaud Beltrame est le héros qui nous manquait.